Bienvenue sur Ils l'ont fait, le nouveau podcast de Digiformag. Je m'appelle Pascal et chaque mois, j'ouvre notre micro à un maker du monde de la formation professionnelle. Il ou elle nous dévoilera l'une de ses réussites en 20 minutes chrono. Une belle manière de vous informer, mais surtout de vous inspirer. Bonne écoute! Bonjour Hélène, donc aujourd'hui on est sur le nouvel épisode du podcast Ils l'ont fait, donc là vous êtes la 6e invitée du podcast. Alors en fait on s'est contacté il n'y a pas très très longtemps via le réseau EdTechLyon et vous m'avez donc présenté votre projet donc Eden School et je me suis dit tiens, ça change un peu, on n'est pas dans la formation professionnelle a priori. Mais il y avait quand même une particularité qui était intéressante à partager. Donc la première question que je vais vous demander, Hélène, c'est qu'est-ce que vous avez réussi en tant que fondatrice ?
Qu'est-ce que j'ai réussi en tant que fondatrice ? Ah, j'ai réussi beaucoup de choses en fait. Déjà ouvrir une école pour mineurs, ça c'est pas une mince affaire. C'est pas aussi facile que d'ouvrir un organisme de formation pour adultes. Et puis finalement, la réussite, c'est surtout les élèves qui l'ont eu, puisque les premières promos réussissent à s'insérer au niveau professionnel. Et donc, ça, c'est une belle réussite, je dirais. Mais c'est celle des élèves, d'abord.
Et ça a été donc un projet que vous avez réussi à mener il y a combien de temps déjà ? Et surtout, moi, la première question que je me posais, c'est aujourd'hui, les jeunes de moins de 18 ans, comment ils peuvent avoir accès à ce type de formation qui sont quand même certifiées et qui les amènent vers effectivement une profession et des débouchés. Ça n'a pas été un peu un travail titanesque pour la faire reconnaître et puis pour avancer avec les institutions
On est encore en cours hein, de travail titanesque, on va dire. L'idée a démarré, c'est Pierre Maillet, donc, qui est cofondateur, qui a eu l'idée de créer cette école. Parce qu'en fait, son fils voulait faire le même métier que lui, puisqu'il était directeur technique à l'époque dans une agence de communication lyonnaise qui est InSign. Et en fait, quand il a voulu chercher des écoles pour son fils, il n'en a pas trouvé. Donc, il a dit, comme il était en plus dans une période de sa vie où il voulait changer de métier, donner un peu plus de sens à ce qu'il faisait, il a dit, je vais monter une école. Et quand il m'en a parlé, en fait, j'ai trouvé ça... Vraiment très novateur et ça répondait à un besoin puisque moi à ce moment-là j'étais psychologue à l'éducation nationale et je recevais des jeunes mineurs qui voulaient faire ce métier-là, qui avaient toutes les compétences, qui déjà développaient des petites choses, ils m'avaient montré ce qu'ils faisaient et moi j'étais impressionnée. Bon, en plus comme je sais pas du tout mon domaine, on est facilement impressionnable, mais effectivement ils avaient quand même des bonnes compétences mais ils n'avaient pas le niveau pour aller en seconde générale ni en seconde techno. Or pour faire ce métier il faut soit avoir le bac soit avoir 18 ans pour entrer dans des écoles type 42, le bac n'est pas demandé.
Mais en tout cas, oui, ils demandent effectivement d'avoir des personnes qui sont déjà majeures et qui n'ont pas besoin d'avoir les parents derrière pour leur valider ou pas de rejoindre ces écoles.
C'est ça. Et là, effectivement, quand Pierre m'a parlé de ça, je voyais très bien hein, que les jeunes que je recevais en entretien, je me disais, là, pendant 3 ans, ils vont faire quoi ? C'est pas aux jeunes. Et je me disais, ok, ils vont partir faire un bac pro SN, mais qui n'a rien à voir avec le métier de développeur. Hein. C'est bac pro SN, c'est vraiment du matériel, quoi.
C'est souvent là où on les place quand on voit qu'on ne peut pas forcément répondre à leurs problématiques. Donc, les lycées, les collèges disent à ces jeunes, tu as 16 ans, donc tu ne quittes pas le système scolaire et on te met là et après tu verras quoi. Et généralement, après, il ne se passe pas grand-chose.
Soit ça passe, soit ça casse. Et c'est un peu compliqué. Alors, effectivement, il y a des jeunes qui arrivent à tenir bon parce que voilà, ils ont les ressources en eux, mais il y en a d'autres pour qui c'est assez compliqué. Et donc, voilà, quand Pierre m'a dit on y va, j'ai dit ok, je t'aide, mais je pensais pas du tout. Moi, je pensais juste faire le référentiel de compétences puisque le diplôme, la certification n'existe pas. Donc, il a fallu qu'on crée la certification, il a fallu qu'on crée l'école, il a fallu qu'on se mette en lien avec le rectorat à Lyon et qui nous a vraiment beaucoup aidés. Et c'est un soutien très fort. Grâce à eux, on a pu aussi avancer assez vite.
Oui, parce qu'en fait, de prime abord, moi, je me disais, est-ce que vraiment le rectorat et l'éducation nationale ont été partie prenante ou alors, au contraire, vous ont vu comme peut-être une école privée qui allait prendre des jeunes sans forcément les encadrer et pas forcément, du coup, bien vu de leur part, quoi.
Alors, c'est vrai qu'une école privée hors contrat peut être vue comme ça, mais on est allé présenter le projet avant de l'ouvrir. Donc ça devait être en janvier ou février 2017. Ouais, c'est ça. Et donc on leur a présenté le projet et ils ont vu que quand même, bon, c'était, il y avait derrière de l'accompagnement, il y avait un désir profond de pas faire n'importe quoi avec avec des mineurs. Et puis bon, c'est vrai que moi étant psychologue à l'éducation nationale, c'est vrai que c'est une caution qui peut être rassurante. Et pour moi, il était hors de question de faire n'importe quoi avec avec les élèves en fait. Donc et c'est un discours que j'ai à chaque fois, c'est-à-dire que oui, ce sont des mineurs, on sait que ça peut être un peu compliqué, mais on sait aussi que dans le domaine du développement, en fait, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à créer, tant au niveau des certifications, des niveaux de certification, mais aussi des domaines de certification, parce que il y a des métiers émergents, mais derrière, il n'y a pas de formation. Et donc, les métiers du domaine du digital, en fait, on embauche souvent des gens qui sont autodidactes ou des ingénieurs. Pourquoi est-ce qu'on embauche des ingénieurs ? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont la capacité de s'auto-former. Et donc, ils sont capables de changer de techno ou de changer de domaine assez facilement. Chose que ne peut pas faire, par exemple, un ado. Il n'a pas du tout les compétences cognitives.
Puis la maturité.
Et la maturité, oui, tout à fait. Et donc... c'est vrai qu'au début, moi, je craignais un peu le regard qui allait être peut-être pas super bienveillant à l'égard d'Eden School. Mais finalement, en fait, le rectorat a compris. On a un partenariat assez important avec le rectorat de Lyon. Et on est toujours en contact avec eux, en fait. Ils nous voient pas du tout comme un concurrent, mais ils nous voient plutôt comme c'est une voie qui permet à des jeunes, en fait, de s'épanouir. Et finalement, on est en concurrence avec personne. On n'est pas en concurrence avec les écoles de la grande école du numérique, par exemple, ou les écoles du campus régional numérique. Parce qu'en fait, nous, on n'est qu'une formation pour mineurs, donc on n'est pas en concurrence avec eux. Et on n'est pas en concurrence avec l'éducation nationale parce que cette formation-là n'existe nulle part ailleurs. Ouais. Donc en fait, on n'est pas mal vu spécialement. Même au contraire, je pense que les gens sont plutôt intéressés, peut-être dubitatifs, en se disant ils sont un peu jeunes pour.
Mais qu'est-ce qui va se passer après leurs 18 ans ? Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient comprendre. Qu'est-ce qu'une promotion chez Eden School ? Comment ça se passe ? Donc là, nous, on est dans les locaux. Donc là, j'ai pu voir effectivement que vous êtes super bien. Enfin, en tout cas, les jeunes, là, c'est royal. Comment ça se passe une année scolaire chez Eden School ?
Alors, une année scolaire chez Eden School, on démarre en général la première semaine de septembre et on termine autour du 10 juillet. Les élèves, donc, on court... tous les jours, du lundi au vendredi, sauf le mercredi après-midi, pardon, pour les élèves de première année. Et les élèves ont une semaine de vacances sur les deux. Donc, ils ont un peu plus de volume horaire, mais la formation se fait sur 2 ans.
D'accord.
Voilà.
Et ils ont de la pratique, donc il y a des tuteurs, formateurs. Comment ça se passe la pédagogie, en fait, une fois qu'ils sont arrivés hein.
Alors, quand les élèves arrivent, donc on est sur une formation professionnalisante, qui est professionnelle. Donc, les élèves ont 22 heures de cours de code en première année et 25 en deuxième année. Ensuite, ils ont 9 heures de cours académiques. Ça, c'est le deuxième pilier de compétences. Donc, ils ont toujours français, histoire géo, maths, sciences, anglais et 2 heures de sport aussi, tous les 15 jours. Et puis, on a rajouté un troisième pilier de compétences pour travailler ce qu'on appelle les savoir-être, donc c'est l'enseignement humain. En première année, c'est surtout tourné vers qui je suis, apprendre à mieux se connaître. Donc là, par exemple, ce matin, je leur ai fait un cours sur les valeurs. Quelles sont les valeurs qui les guident ? Quelles sont les boussoles qui les guident ? Donc, c'est assez intéressant parce que des fois, ils découvrent des choses sur eux. Un jeune, par exemple, ne se voyait pas du tout autonome alors que c'est ressorti en premier chez lui après les questionnaires. Et finalement, en creusant, il s'est dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. » Donc, en fait, ils apprennent à mieux se connaître à travers les valeurs, à travers les émotions.
Oui, puis le regard des autres aussi.
Oui, il y a beaucoup, on fait beaucoup de de travail réflexif et auto-réflexif, de réfléchir aussi en groupe. Ouais. Et puis, donc la première année, c'est vraiment de tourner sur soi et apprendre à mieux se connaître. Et puis, en deuxième année, c'est maintenant que je me connais mieux, c'est comment est-ce que je me projette après dans ma vie future. Donc, on travaille l'orientation tout au long de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est assez important puisqu'on sait que on va pas personne ne va garder le même métier toute sa vie, où c'est vraiment... Enfin voilà, à part si on est médecin ou on... Ouais. Mais en gros, surtout dans le domaine du digital, les jeunes vont être amenés à changer de métier plusieurs fois. Donc on leur apprend en fait à vivre et à fonctionner avec cette façon de vivre, on va dire. Et puis ils vont travailler aussi tout ce qui est CV, lettre de motivation, entretien d'embauche. Ça, ce sont des entreprises partenaires qui font venir des RH pour justement les faire travailler dessus. Comme ça, les jeunes ont vraiment des outils actuels et pas le CV tel qu'on le faisait à mon époque. Et puis ils travaillent aussi sur les droits et les devoirs au travail. Voilà, donc ça, c'est 2 heures par semaine et puis c'est aussi en transversal.
D'accord.
Donc là, on va travailler entre autres les 4 C, la créativité, le travail en équipe, j'en oublie toujours un, la communication et la créativité.
Voilà. Ça, c'est des choses que dans les lycées actuellement, les jeunes font, ou c'est vraiment, vous n'êtes pas du tout inspiré de ce qui était fait dans des filières générales, hein. C'est vraiment des cours qui sont propres à ce que vous avez conçu, vous, chez Eden School.
Alors, d'où on l'a conçu chez Eden School, on a fait un pied de compétences à part. Je connais pas tous les établissements professionnels, tous les lycées professionnels. Je sais que dans certains lycées professionnels, on travaille notamment la connaissance de soi, mais c'est pas un pilier de compétences à part. D'accord. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur de cours, le CV, la lettre de motivation. Je sais qu'il y a des profs de français qui les font travailler dessus, mais nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment que ça soit un pied de compétences à part, de façon à montrer l'importance. Que, voilà, c'est une matière en soi. Et puis, on fait appel à des professionnels parce que finalement, le monde de l'entreprise est porté par l'entreprise, en fait. C'est pas, pour nous, ça nous semblait très important. Et quand on voit dans justement la création des Dance School, là, il y a Pierre Maillet, donc, qui était directeur technique dans une agence de communication. C'est Ségolène Montgolfier qui travaille chez Evolem. Et moi qui suis dans l'éducation nationale, finalement, on est trois personnes complémentaires avec des visions des jeunes dans le monde du travail, et chacun on a apporté un petit peu notre touche. Les déj avec un pro, voilà, ça c'est venu d'une idée de Ségolène ou Pierre, je me rappelle plus, enfin en tout cas un des deux.
Oui. Intéressant, c'est que de par votre parcours à tous les trois, vous avez vraiment combiné le meilleur de chaque écosystème pour les jeunes.
C'est ça.
Et en revanche, il n'y a pas de stage en entreprise pendant ces 2 années. On est vraiment dans les locaux là, en cours, en présentiel. Il n'y a pas de stage de découverte dans une entreprise.
Non, parce qu'en fait, la découverte de l'entreprise se fait dans l'école. Déjà, les élèves travaillent sur des projets, peuvent travailler sur des projets qu'on vend à des clients, donc on en a quelques-uns. Bon, c'est pas la majorité de leur pratique, mais en tout cas, il y en a. Donc, ils ont affaire à des clients, la satisfaction du client, ils voient comment il fait un projet du début j'imagine, j'ai un besoin. Et je livre un site internet, vous voyez. Donc là, il voit toutes les étapes à l'école. Ensuite, les élèves font des journées hors les murs. Donc là, ce sont des journées qu'on passe dans des entreprises. Et là, les entreprises nous accueillent. Ils sont reçus par des professionnels qui montrent leur lieu de travail. Donc voilà, il y a beaucoup d'échanges. Une fois par mois, les premières années, on ce qu'on appelle un déj avec un pro. Donc c'est un professionnel qui vient parler de son métier, de son expérience, aussi de lui, quel a été son parcours ? Parce que parfois, il y a des parcours, justement, ça...
Ça inspire ou ça se dit, tiens, finalement, je ne suis pas tout seul à avoir un peu galéré ou à me...
C'est ça. Et c'est très positif, en fait. Ça les encourage à continuer. Et les élèves de deuxième année ont chacun un parrain ou une marraine d'entreprise. Donc là, le parrain ou la marraine peut prendre le jeune ou la jeune en une journée dans son entreprise pour montrer, voilà, bon travail... aussi permettre d'étoffer son réseau, parce que Malheureusement, ce milieu-là, les métiers sont pas tous connus. Et quand vous avez des parents qui ont des métiers, je dirais, plus traditionnels et moins modernes, et que les jeunes n'ont pas de réseau, quand ils doivent se projeter dans une alternance, c'est compliqué. Ouais. Donc là, le parrain ou la marraine a son jeu, a son rôle à ouais. jouer. Et ils le font super bien, en fait. Et c'est vrai que la connexion entre un jeune et un adulte du monde de l'entreprise, ça marche super bien.
Et là aujourd'hui, donc les jeunes que vous avez eus, donc c'est pour ces premières promotions. Donc là, on est dans les locaux. J'en ai croisé quelques-uns. Donc il y a beaucoup de garçons. C'est ce que vous me disiez. Oui. Compliqué pour avoir des filles qui veulent faire ce métier aujourd'hui. Mais bon, ça c'est partout pareil, malheureusement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir là dans la pratique. Là, typiquement, j'arrive et le vendredi, chacun a sa tâche. C'est-à-dire que vous les, ils sont autonomes aussi dans la gestion de la salle de classe, de leur lieu en fait.
Oui.
Et ça, c'était assez sympa à voir. Donc, je tenais à le souligner. Et puis, ils jouent le jeu et ils n'étaient pas, voilà.
Alors, au début, quand ils arrivent chez Dance School, ils râlent un petit peu, mais les deuxièmes années, les bougent. Et puis, on leur apprend en fait à respecter le matériel et à prendre soin de son matériel. Et c'est aussi passer l'aspirateur, nettoyer les sols avec la serpillière. Et finalement, ils sont bien contents parce que leurs locaux sont propres et c'est eux qui sont à l'origine de ça. Et derrière aussi, ils sont davantage respectueux.
Et aujourd'hui, là, les jeunes qui ont fini la deuxième année, est-ce que vous avez, donc c'est quoi la suite après pour eux une fois qu'ils ont terminé les deux ans, qu'est-ce qui est possible ou pas? Donc, est-ce qu'ils peuvent tenter de passer le bac et repartir sur des études plus classiques ou quel peut être le parcours une fois qu'on a la certification?
Alors, une fois qu'on a fini Eden School, effectivement, ils peuvent repartir sur un bac, mais là, ils sont obligés de repartir ou dans un établissement, ça c'est tout à fait possible, ils sont obligés de repartir sur toute la filière lycée, donc ça c'est possible. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui l'a demandé. La grande majorité, en fait, continue dans le métier des études de développeur. Une moitié part en alternance, l'autre moitié en initiale. Donc, ça va pas être des IUT ou des maintenant, c'est des BUT, c'est 3 ans, soit des BTS. C'est pas du tout... ils ne peuvent pas se positionner sur des formations diplômantes de l'éducation nationale. Par contre, il y a des formations certifiantes du ministère du Travail, par exemple, des titres pro de niveau 5 ou de niveau 6, des bachelors, qui vont dans la continuité des Dance School. Donc là, c'est la grande majorité. Après, il y a d'autres jeunes qui peuvent partir sur des formations en bachelor type web marketing, du design de jeux vidéo, du web design, ou alors ils partent faire autre chose. Ils rentrent dans le monde du travail. On a un jeune qui est rentré dans l'armée parce qu'il voulait être pompier plus tard, pompier de Paris.
Ouais, en tout cas, dans tous les cas, c'est vrai que c'est compliqué de se dire à 18 ans, je veux faire tel métier, je ferai ça, et ça n'a pas de sens. Et certains l'ont déjà, effectivement, mais beaucoup de jeunes ne l'ont pas du tout, cette capacité et cette idée déjà bien appuyée. Donc finalement, c'est 2 années où au moins ils n'ont pas été en échec, et je pense que le programme fait qu'ils sont mis en confiance aussi. Et après, 18 ans, c'est encore super jeune, donc j'imagine qu'ils peuvent encore une fois tout imaginer et puis reprendre d'autres études ou faire autre chose, effectivement, partir sur d'autres métiers.
Oui.
Mais c'est pas la même approche que s'ils étaient restés effectivement au lycée, dans un cadre peut-être qui n'était pas celui qu'ils avaient voulu et qui nous aurait mis en échec aussi, j'imagine.
Oui. Et c'est vrai que nous, chez Dance School, on suit les élèves jusqu'à 3. Enfin, même je pense que je vais continuer, mais j'avais promis aux élèves, je vous suivrai les 3 ans qui suivaient Dance School. Donc, je connais le parcours de chacun. Et à chaque fois, c'est des histoires différentes. Donc, il y a des grandes tendances. Et c'est vrai que globalement, quand les élèves arrivent chez nous, beaucoup disent « moi, je vais aller dans le monde du travail quand j'ai fini ». Et finalement, quand on regarde, il y en a très peu, c'est que 10%. Les autres continuent leurs études. Donc, ça veut dire que finalement, ça, vous me posez la question des réussites. La réussite, c'est de leur avoir donné le goût et l'envie d'apprendre. Parce que finalement, toute sa vie, on va être amené à apprendre. Être développeur, c'est apprendre des nouvelles technos. Et je pense que ça, c'est peut-être l'objectif. On forme des développeurs, c'est bien. Mais surtout, nous, ce qu'on veut, c'est que les jeunes qui sortent de chez nous soient bien dans leur basket et qu'ils aient des projets et qu'ils se disent, même si ça peut paraître incroyable, ce projet-là, j'y arriverai, si c'est pas par la porte, j'y arriverai par la fenêtre.
Oui, et finalement, c'est vrai qu'en France, quand on est dans le collège-lycée, c'est beaucoup la technique, la compétence, l'évaluation, mais finalement, la confiance en soi de l'élève, elle est totalement écartée, et il y a beaucoup d'élèves brillants qui, parce qu'ils n'ont pas la confiance et ils n'ont pas été accompagnés comme ça, en fait, se sabordent ou n'arrivent pas dans leurs études ou dans leur vie plus tard, parce qu'effectivement, il n'y a pas eu cette prise de conscience qui a été apportée par les enseignants. Alors, je ne critique pas tous les enseignants, mais c'est vrai que c'est une philosophie que parfois dans les lycées de filière générale, les profs n'ont pas, quoi. Donc,
C'est-à-dire que c'est compliqué d'arriver à créer cette proximité-là, parce que dans les établissements, moi, je connais bien, hein, puisque j'ai été aussi prof des écoles, j'ai été aussi prof dans un collège, donc je connais très bien la problématique. C'est-à-dire que quand vous avez, vous voyez 10 classes, vous ne pouvez pas créer de la proximité. Alors qu'ici, les profs sont là, les profs de tech, hein, sont là à temps complet, ils bossent 39 heures et ils sont tout le temps où les élèves sont à l'école, ils voient leurs profs. Donc c'est sûr que les promotions, on a des promotions maximum de 20 élèves. Donc c'est sûr que quand on arrive à créer la proximité à la fois dans le temps, mais aussi parce que les groupes sont petits, la confiance, bien sûr, est tout à fait possible. C'est beaucoup plus facile. C'est vrai que on peut pas tellement comparer en fait school avec un lycée classique, parce que les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. On est dans une voie pro, un métier qu'on apprend nulle part ailleurs à ce niveau-là, et puis les conditions ne sont pas les mêmes. Notre école, elle fait aller à tout casser 150 mètres carrés et c'est tout. Alors que quand vous voyez un lycée classique, c'est des classes, c'est des numéros, et c'est vrai que c'est pas comparable. Mais en tout cas, ici, il y a des jeunes qui trouvent leur compte. D'autres, le dev, c'est pas leur truc. Ben, on les accompagne pour la réorientation, c'est pas un souci. Mais en tout cas, voilà, on peut pas tellement comparer, parce que en fait, tout est complètement différent. Ici, par exemple, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de devoirs.
Ouais.
Voilà. Donc, on peut pas comparer. Et c'est sûr que le fait de ne pas avoir de notes ou de devoirs, pour certains élèves, ça les soulage, parce qu'en fait, ça leur met une pression énorme.
Ouais. Il y avait une chose qui était intéressante aussi, et je pense que beaucoup se posent la question, c'est finalement combien ça coûte et est-ce que c'est vraiment accessible pour chacun. Et là, effectivement, vous m'aviez bien expliqué le process et comment ça a fonctionné. Et effectivement, c'est accessible, ce n'est pas une école qui coûte 10 000 euros l'année, pas du tout.
Non, c'est une école en fait c'est 1 500 euros maximum par an. Et c'est dégressif en fonction du QFCAF, ce qui veut dire qu'on a des élèves en fait qui ne payent pas du tout la scolarité, et même ça nous est arrivé d'accompagner des élèves qui rencontraient des difficultés pour même s'acheter à manger. Là, on avait des tickets resto que nous avaient donné des partenaires. Vraiment, on essaye de mettre les élèves dans des conditions telles qu'il n'est que l'école à penser. Alors, des fois, c'est pas évident. Selon le contexte familial, des fois, c'est compliqué. Mais nous, on essaye de les alléger au maximum de tout ça. Après, voilà, on n'est pas non plus infaillible. On est des humains. Donc, il y a des choses qu'on a réussies, d'autres un peu moins. Bon, voilà. Mais en tout cas, on fait de notre mieux pour que les élèves, en fait, quand ils sont chez nous, ils soient heureux d'être à l'école, ils aient le sourire, bon, je pense qu'ils l'ont, c'est bon.
Je valide.
Il n'est pas de soucis, qu'ils n'aient pas déjà le sac à dos rempli de soucis pour après rajouter des maths, de la tech, etc. Non, on essaye d'alléger. Bon, on fait de notre mieux, voilà. Mais bon, on réussit. D'autres fois, c'est un peu plus difficile. Mais bon, voilà, on essaye de faire bien.
Bon, mais si certains jeunes nous écoutent ou certains parents, ils peuvent vous contacter. Votre site web est très bien fait, donc il y a tout est expliqué. Vous êtes présent à Lyon, aussi à Paris,
dans le 17e.
Il y a d'autres projets aussi en développement sur notre ville ou pour l'instant?
Alors, pour l'instant, c'est un peu un stand-by. On a bien sûr l'objectif de créer des écoles, d'aller dans les territoires. Parce que là, aujourd'hui, des jeunes qui veulent faire Eden School sont obligés soit de prendre un logement ou d'aller chez l'habitant ou d'être en coloc. Et c'est vrai que c'est pas une solution idéale non plus à cet âge-là. Mais il y en a qui le font et ça marche très bien. Donc, on a pour objectif, effectivement, d'ouvrir des écoles un peu partout en France. Mais bon, là, on essaye de bien stabiliser le modèle et puis d'être un peu plus connu, en fait. Parce que là, aujourd'hui, bon, voilà, on n'est pas encore... On n'a pas encore assez de notoriété, mais on travaille dessus.
Ok, ça marche. On arrive à la fin du podcast. On a toujours deux questions pour nos invités qui sont un peu hors du sujet, mais aussi intéressantes. Si vous aviez une formation aujourd'hui à dispenser, qui serait totalement différente de ce que vous faites chez Eden School, ça serait laquelle? Et vous-même, si vous deviez vous reformer aujourd'hui, ça serait vers quel domaine ?
Alors, je vais prendre les questions à l'envers. D'accord. Moi, je me formerai au domaine de la tech parce que j'ai découvert un petit peu ce que c'était. Alors, j'ai fait du basique sur papier à l'époque dans mes études, mais j'avais pas d'ordi. À l'époque, on avait très peu d'ordi. Donc voilà, moi, j'aimerais bien me former à ça. Et puis, pourquoi pas après enseigner la tech et en particulier aux filles et pourquoi pas chez des maternelles. Voilà, ça serait mon objectif.
D'accord. Eh ben, c'est ambitieux.
Il n'y a plus qu'à.
C'est un bon projet. Merci beaucoup. À très bientôt.